Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end avec notre membre de la Dream Team, Marie Zemanjepé. Comment ça va Marie?
Je vais très bien.
Actu forte sportive on a dit. Hein.
Ouais, tout va bien.
On va faire des grands gestes.
Non, je discute avec la régie fort gentiment.
Les sports d'hiver à la une, les JO de Pékin, c'est dans 2 mois déjà, un peu plus. La saison de biathlon a démarré ce week-end et le leader de la Coupe du Monde à l'issue de ce premier week-end à Östersund est français, messieurs dames. Simon Détieux, il sera notre invité dans quelques minutes. Après 3 semaines de pause, le top 14 est de retour ce week-end. Et quel retour! Des matchs accrochés, des dénouements à la sirène et un championnat qui sera serré en haut et en bas cette saison. 6 équipes concernées par le maintien. La Coupe Davis, c'est déjà fini pour la France. Nouveau format, mais résultats conformes, malheureusement, aux performances récentes. Explication à 19h30 sur ce format qu'on vous réexpliquera et qui pourrait encore changer. Et puis l'invité du RMC Sport Show dans 3 quarts d'heure, une championne d'Europe, championne du monde, championne olympique sur RMC, la joueuse de l'équipe de France de handball, Béatrice Edwige, sera là juste avant de s'envoler pour le mondial espagnol.
RMC Sport Show.
Un mot de foot dans cette émission pour commencer. C'est le direct et ce choc de Première Ligue entre Chelsea et Manchester United, Anthony Reich.
Ouais, 76 minutes de jeu à Stamford Bridge et toujours un but partout entre le leader de Première Ligue Chelsea et les Red Devils 9e qui ont ouvert le score en première période grâce à Sancho et égalisation il y a quelques minutes sur pénalty de la part des Blues grâce au capitaine Jorginho.
Merci Anthony, à tout à l'heure. Le hashtag RMC Live est là, bien sûr. Je lis vos messages sur le Direct Studio aussi, l'appli RMC. On est en direct avec Marie jusqu'à 20h. Il neige sur quelques départements, il fait froid sur presque toute la France. On a rajouté un petit plaid sur le lit pour dormir. Bref, l'hiver revient et avec lui la Coupe du Monde de biathlon qui a repris ce week-end.
On a Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Simon Destieux qui, après leur premier tir, le tir couché, sont à 0 faute. Le plein, 5 sur 5. Et puis Simon Destieux est actuellement sur le pas de tir. La première est dedans. Donc il n'y a pas d'erreur. 4 sur 4, c'est bon. Allez, la dernière pour Simon Destieux. C'est bon, le plein. Et il va jouer quelque chose. Simon Destieux, le podium ou une place dans le top 5. Ça skie vite, ça tire très bien. C'est une course de très, très haut niveau pour ce premier sprint de la saison.
La une du RMC Sport Show.
La Suède accueillait la première étape de la Coupe du Monde. Et oui, on a reconnu la musique, bien sûr. Les Suédois d'ABBA, les plus connus avec Zlatan et Ikea. Ça se passait à Östersund, l'individuel homme et femme hier. Les sprints aujourd'hui. Bonsoir Julien Richard.
Bonsoir Thibaut Jean-Grand. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Notre spécialiste biathlon l'hiver. Julien, ce premier week-end de Coupe du Monde, on le scrute un petit peu plus que d'habitude parce que c'est une année olympique qui vient de débuter. Toujours particulier ça.
C'est vrai, c'est une année olympique. Ça va vite arriver en fait. C'est dans quoi? Dans
2 mois et demi.
2 mois et demi.
4 février, je crois.
4 février, bien vite. Au 20 février.
Qu'est-ce qu'on retient de ce premier week-end de cette saison olympique qu'un Français leader du classement général de la Coupe du Monde? En résumé, c'est pas mal quoi.
C'est un bon résumé. 2 sur 4. Il y avait 4 courses, 2 podiums pour les Français. Anaïs Chevalier Boucher, 2e du sprint ce matin. Les Bleus, à l'image également de Justine Brezaz, hein, Anaïs et Justine, qui ont bien rectifié le tir après être passés un peu collectivement à côté de l'individuel 15 km samedi. Et puis donc hier, Simon Destieux 3e du 20 km et 5e aujourd'hui, juste derrière Emilien Jacquelin, donc 4e au pied du podium de ce sprint. Une 3e place et une 5e place sur ces 2 premières courses qui lui permettent de s'emparer du dossard jaune de leader de la Coupe du Monde à égalité avec Johannes Bø, le triple tenant, le triple vainqueur du Globe de Cristal.
Et il sera avec nous dans quelques secondes. Maryse, un premier week-end, un lancement d'une saison olympique, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Est-ce que
le froid est revenu, ça y est.
Oui, ça toi aussi tu mets un petit plaid en plus. Non, mais d'un point de vue sportif, quand la Coupe du Monde redémarre là, est-ce que ça peut être en trompe-l'œil parce que c'est une année olympique et donc que peut-être la préparation est différente, qu'il faudrait être prêt à un autre moment de la saison, ou est-ce que d'être en forme sur ce premier week-end, Ça veut dire bah,
les jeux vont arriver vite, c'est dans deux mois, donc il y a une fenêtre de tir qui est assez courte, donc qu'ils soient en forme, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, oui, il y a sûrement une préparation un petit peu différente des autres années, mais de toute façon, encore une fois, vu les deux années qu'on a passées avec des arrêts, avec des manques de compétition, etc., rien n'est vraiment comme avant. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu dans le flou et que ça fait toujours très très plaisir quand on voit un tir groupé comme celui-là, parce que Émilien Jacquelin, Simon Détieux, mais aussi Fabien Claude qui fait sixième de cette course, on est plus que riche là, franchement, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Abondance de bien ne nuit pas, et on se dit qu'on part avec une très très belle équipe de France. Quand on voit que Simon Détieux est premier au classement et que derrière on a des garçons qui commencent à se classer aussi, je sais pas ce qui s'est passé pour Jacquelin, mais il était quasiment en passe de faire un podium. Il est tombé, non, je pense, sur
alors il a perdu un petit peu de temps parce que sur son anneau de pénalité, effectivement, il y avait un peu de verglas et il est tombé.
C'est ça, il a chuté.
Ça nous arrive
en conséquence.
Ah bah, ça m'arrivera jamais de faire ce qu'ils font. Hein. C'est juste hallucinant. Ça arrive aussi à Adrien Higuain qui se casse la main. Bon. Ouais. Toujours est-il que c'est vrai qu'on se rend bien compte que là, il y a un niveau qui est exceptionnel chez les Français.
Et nous sommes justement avec le leader du classement général de la Coupe du Monde. Il est français. Il est en direct sur RMC ce soir. Bonsoir, Simon Détieux.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir. Bravo, effectivement. Il se passe un truc, Simon, entre la Suède et toi, entre Östersund et toi, tu as gagné là-bas la toute dernière course de la saison en mars dernier, le week-end d'ouverture de la Coupe du Monde. Tu repars avec le dossard jaune de leader.
Oui, c'est clair. C'est un endroit qui me plaît beaucoup, en tout cas où j'arrive bien à performer. C'est un endroit où je me sens bien et c'est une piste qui me plaît. Et voilà, je suis content d'avoir pu faire le lien entre la fin de saison dernière et le début de celle-ci.
C'est un super endroit pour fêter ses 30 ans, par exemple. Ce sera vendredi.
C'est ça.
Et vous restez sur le. Est-ce que c'est comme en athlétisme, vous étiez en train de dire, c'est un endroit qui me plaît bien. En athlé, on a nos pistes fétiches. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'on a fait des résultats. Est-ce que c'est la physionomie du parcours ou c'est juste parce que ça vous a déjà réussi ou il y a d'autres raisons qui font que c'est un de vos endroits fétiches?
Bah, c'est vrai que je me suis souvent posé cette question, mais je pense qu'ici, c'est une piste qui me convient clairement. Au niveau du profil, au niveau des montées assez longues, c'est quelque chose voilà, qui me correspond, j'imagine. Mais il y a aussi des fois un feeling des endroits où on a régulièrement en tout cas performé. Et du coup, bah, ça amène vachement de confiance aussi là-dessus. Et j'imagine qu'il y a un peu de tout ça. Ouais.
C'est une piste où les Français, souviens-toi, Maryse, avaient fait le quadruplé 1, 2, 3, 4 avec ouais. Martin premier. Et Simon était deuxième d'ailleurs de l'individuel.
Simon, leader du classement général de la Coupe du Monde. Alors, effectivement, c'est le tout début de la saison, mais quand même, c'est quelque chose. Ça représente quoi pour toi ce dossard jaune?
Ah bah oui, c'est sûr que c'est quelque chose. C'est forcément toujours un petit peu un rêve. Alors de là à le réaliser, et puis d'avoir au moins une journée en jaune, ce sera quelque chose d'exceptionnel. Je vais en profiter à un max quand j'aurai ce dossard-là. Après, oui, c'est sûr que c'est très tôt dans la saison. Il y a pour jouer un classement général, je dis toujours que c'est un très long combat. Il faut être là sur toutes les épreuves de l'hiver, pas avoir droit à l'erreur une seule fois. Et voilà. En tout cas, pour avoir vu Martin Fourcade le faire plusieurs fois, je l'ai toujours vu finir les saisons complètement fatigué, anéanti de cette espèce de pression un petit peu. Donc voilà, je sais en fait ce que ça représente, mais et pour ça, ben moi je le vis simplement et pleinement. Apprendre les courses les unes après les autres, c'est ce que j'ai fait sur la fin de saison passée, et c'est ce qui me réussit aujourd'hui. Je pense que c'est cette façon de voir les choses un petit peu presque au jour le jour, quoi.
Marie. Alors, certes, on prend les courses les unes après les autres, mais j'imagine, je fais souvent un parallèle avec l'athlétisme parce que je fais un petit peu d'athlétisme.
Tu connais un peu ce sport.
J'imagine que là aussi, on construit quand même, on monte un peu en pression et que les entraînements ne sont pas les mêmes quand on s'approche de l'objectif ultime qui sont les Jeux Olympiques. Est-ce qu'en ce moment, à l'entraînement, par exemple, vous faites plutôt du foncier, plutôt des très très longues distances, ou est-ce qu'on commence à raccourcir un peu les distances
Non, on est sur une approche un peu comme les saisons passées, comme si on abordait un championnat du monde. En fait, nous, en biathlon, on n'a pas forcément l'occasion ou le temps de se préparer plus les Jeux Olympiques qu'une autre course. Ou alors, ça voudrait dire faire des impasses. Mais et en fait, on a besoin d'être classé, bien classé au classement général pour prendre part au meilleur groupe de départ, des choses qui sont en interne. Mais du coup, on prépare pas forcément, et c'est pour ça que cette saison, même s'il y a les Jeux Olympiques en février, on a quand même décidé d'attaquer la saison comme il faut et comme on l'a vu voilà, sur ce premier week-end où on est largement dans le coup, donc c'est ça l'essentiel.
Il faut savoir qu'en biathlon, en fait, une saison, ça se prépare depuis le mois de mai et la grosse période de travail foncier, c'est tout ce qui se passe l'été et
oui, bah,
jusqu'à l'automne. Et c'est vraiment là que c'est construit. Il n'y a que 4 mois de compétition, donc c'est vraiment. On ne peut pas avoir une préparation spécifique vraiment pour les gros événements.
Simon Détieux est l'invité du RMC Sport Show, le leader après ce premier week-end de la Coupe du Monde de biathlon, toujours avec Maryse Evangépé et avec Julien Richard. Simon, il y a peut-être quelque chose qui a changé, alors je ne sais pas, tu vas nous le dire, dans cette préparation, mais l'année dernière, tu n'étais pas papa lorsque tu as préparé ta saison. Cette fois-ci, si, ça change quelque chose, dans l'approche de cette saison, mais dans la préparation aussi.
Oui, forcément. Oui, ça change bien les choses de devenir papa. C'est une autre gestion de la fatigue durant la phase de préparation estivale. Je suis content. Je suis content. On vit tellement des beaux moments à la maison. Voilà. Aussi, je suis content de partir pour le biathlon. Je sais pourquoi j'y vais. Je suis content aussi de rentrer à la maison, retrouver la petite famille. Et ça fait du bien. Et voilà, c'est des moments intenses, c'est des beaux moments et ça aide aussi à prendre du recul sur les choses, sur le biathlon, sur ce qu'on fait quand on a un petit bébé à la maison. La vie forcément est à peine différente. Ouais.
Et puis la maman, c'est bien ce que c'est le biathlon et de partir en compétition puisque c'est Célia Aymonier, ancienne membre de cette équipe de France. Ah oui. J'imagine que ça aide aussi d'avoir une compagne qui comprend parfaitement ce que ça veut dire être biathlète.
Ah ben oui, complètement. Célia, en plus, elle a la chance d'être venue sur le biathlon assez tard. Elle est venue du ski de fond d'abord. Du coup, elle a encore un recul sur ce qu'on fait en tant que biathlète. Et voilà, elle m'aide beaucoup dans tout ça. Et je la remercie parce que voilà, elle prend part à la vie de biathlète et en même temps, elle fait tout pour m'alléger au maximum sur le côté. Voilà, la prise en charge du bébé parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au début et ça m'a permis de pouvoir m'entraîner comme il faut dans de bonnes conditions pour aborder cette saison au mieux.
Ça demande du temps et de l'énergie au début.
Et après aussi,
ouais, je voudrais pas t'annoncer des mauvaises nouvelles.
C'est pas les nantes, c'est pas la même énergie.
T'emballes pas sur la suite, Simon.
C'est pas la même énergie, il y aura plus de nuit déjà.
Ouais. C'est ça.
Simon, tu nous parlais de cette piste qui te réussit bien, Östersund en Suède. La bonne nouvelle, c'est que le deuxième week-end de Coupe du Monde, c'est encore sur cette piste d'Östersund le week-end prochain. De quoi prendre un plein de confiance là, dans cette saison.
Oui, il y a 3 jours. Off sans compétition jusqu'au sprint de jeudi, donc ça laisse le temps de se reposer un petit peu de ce premier week-end et puis de repréparer les 3 courses qui vont arriver sur Östersund. Donc on reste sur le même site, donc les repères sont déjà là, on a tout ce qu'il faut, on a des belles conditions. Ici c'est toujours un petit peu le cas du vent qui peut être délicat par moment, mais en tout cas on a des super conditions de neige, donc c'est top.
Le froid, le vent, c'est une mini, mais très très mini répétition ce que vous allez trouver aux Jeux Olympiques.
Oui, j'ai cru comprendre que Pékin. Ça allait être extrêmement froid à Pékin.
Il y a très peu d'infos, si ce n'est que, parce que vous n'avez pas encore pu y aller, mais si ce n'est qu'il fait très très froid et qu'il y a beaucoup de vent. Ça ressemble un peu à Pyeongchang. Alors, il y a eu des belles émotions avec l'or olympique pour toi dans le relais mixte, mais ça s'inspire quoi de devoir aller disputer des Jeux dans ces conditions-là?
Ben oui, forcément, on a eu ces infos depuis quelques temps déjà, donc on s'y prépare, on a adapté un petit peu notre matériel pour pas avoir froid pendant les courses, surtout au niveau des doigts, c'est là où on a beaucoup à jouer avec le tir, donc ces petites choses un petit peu techniques, et puis aussi on a travaillé forcément un peu dans le vent aussi, dès qu'on a pu, pour essayer de retrouver les conditions qu'on imagine en tout cas qu'on aura sur les Jeux. Après, à Pyeongchang, on nous a aussi vendu un site très froid avec beaucoup de vent. Et finalement, quand les compétitions sont arrivées, on a eu des conditions assez clémentes. Donc, on espère aussi pouvoir avoir des conditions presque idéales ou en tout cas abordables par rapport à tout ça. Parce que faut savoir que le vent dans notre discipline, ça perturbe beaucoup, beaucoup de choses au niveau du tir. ça nous perturbe beaucoup. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, on a préparé des choses. J'espère que ça ira pour le mois de février.
Le biathlète Simon Détieux en direct sur RMC pour encore une minute ou deux dans le RMC Sport Show. Juste, Julien le disait, tu vas avoir 30 ans vendredi prochain. Tu ne vas pas pouvoir rentrer à la maison. Tu es à Östersund. Tu vas pouvoir fêter un petit peu ça. Comment ça va se passer ce
changement pas, il est déjà au Macumba suédois là.
Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'on entend. Nous, on a mis à bas tout à l'heure. On entend de la musique derrière toi. C'est quoi? C'est à l'hôtel, musique suédoise?
Non, je suis au restaurant juste à côté. Ouais.
Ah ouais, ils mettent la musique à fond au resto. C'est sympa, sympa, bonne ambiance.
Ouais, c'est 30
faut
ans.
Mettre un peu d'ambiance, il fait nuit toute la journée.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est. Oui, le soleil se lève presque pas.
Assez tard, oui. Ouais. Mais oui, voilà, 30 ans vendredi, donc. J'aurais au moins eu un jour avec un dossard jaune avant mes 30 ans, on pourrait dire ça.
C'est magnifique, parce que c'est vendredi.
Une crise de la trentaine avec un dossard jaune, c'est bien.
C'est magnifique. Bien, justement, Simon, on va se permettre de te poser cette question également, parce qu'on va être amené peut-être à commenter tes exploits aux Jeux Olympiques, on l'espère. Simon Détieux ou Simon Destieux, une fois que
bonne question.
Réglé une fois pour toutes.
Ouais. Oh non, on l'a perdu. Simon, es-tu là? Où t'es parti manger ton dessert?
Oui,
sur Détieux. All Night
Détieux.
Long.
Beaucoup de gens se trompent, mais oui, c'est Détieux.
C'est Détieux. Voilà, comme ça, c'est fait sur RMC. On espère commenter en Nord Olympique.
Non, je vous ai coupé, j'ai eu un petit problème de réseau.
D'accord.
Donc, c'est ça, Détieux.
Ah ouais. Parfait. Ben, merci en tout cas d'être passé nous voir, Simon Détieux, ce soir. C'était un plaisir de discuter avec toi. Et puis, ben, on te laisse finir ce petit resto tranquille sur Lionel Richie. On entend derrière toi.
Et on sort encore gratis. Il tac son moquette.
Bon, ouais, gère, Marie.
On parle plus de toi.
Un petit peu.
On sait où on passe ce week-end dans un petit magasin de. Merci Simon, bonne soirée et on se retrouve très vite pour poursuivre cette saison olympique. À bientôt.
Merci
beaucoup.
Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Salut. Merci beaucoup Julien. Attends encore deux trois questions avec toi sur ce week-end parce qu'on a eu Simon et c'était un plaisir. Derrière lui, les autres Français, Maryse en parlait, ils sont pas très loin non plus.
Oui, puisque donc Emilien Jacquelin quatrième, une faute au tir qui lui coûte le podium et pourquoi pas même la victoire sur ce sprint. Alors il était passé complètement à côté de l'individu. Duel, il avait fait 16 sur 20. Donc pas mal d'erreurs même. Oui, 16 sur 20 au tir. Donc voilà, il a rectifié tout ça. Simon Détieux, 5e. Fabien Claude, 6e. Là aussi, il fait un bon début de saison. Fabien Claude, il prend le plein de confiance. Antonin Guigaudin, 14e. Et puis Quentin Fillon-Maillet, ça va être un peu plus compliqué. Deux fautes encore aujourd'hui. 32e. Une course à oublier, comme il dit. Et puis chez les filles, il y a eu ce que je disais tout à l'heure, pas un naufrage collectif, mais ça s'est pas bien passé collectivement sur la première course. Sur l'entamé, pas mal de tensions. Beaucoup de fautes derrière la carabine sur l'individuel. 15 km samedi, ça a été beaucoup mieux aujourd'hui avec donc Anaïs Chevalier-Boucher 2e, Justine Brezaz-Boucher 6e, Anaïs Bescon 13e, Julia Simon 35e, un peu plus loin pour Chloé Chevalier 56e. Que ce soit chez les filles ou chez les garçons, surtout chez les garçons d'ailleurs. L'autre bonne nouvelle de ces deux premières courses, c'est que sur les skis, ils ont été hyper rapide. Emilien Jacquelin, meilleur temps hier, quasiment meilleur temps si on enlève sa petite chute encore aujourd'hui. Donc
mettons-nous au ski fond, c'est ce que
à domicile, les Suédois ont brillé puisque c'est Anna Heuberg qui s'impose et Samuelsson chez les garçons qui s'impose, mais les Français ont été très rapides.
Mais c'est surtout la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'ils ont bien ajusté leur tir, on peut avoir des super résultats.
Exactement. Il y a la forme physique, en tout cas, est là, la préparation. Oui, c'est quand même l'inconnu du début de saison. C'est que la forme physique, la préparation s'est bien passée et c'est validé par ce qu'on voit là.
Merci Julien Richard. On te retrouve sur le biathlon le week-end prochain pour ce deuxième week-end de Coupe du Monde à Östersund, à nouveau en Suède, où le Français Simon Détieux partira avec le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. 19h17, le RMC Sport Show continue, bien sûr, comme tous les dimanches soirs avec Maryse et Vangépé jusqu'à 20h dans un instant. Rugby. Presque la moitié du top 14 concerné par le maintien. Ça sera chaud en bas cette saison. Les explications dans un instant.
RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Avec Maryse et Vangépé, il est 19h18. On est en direct jusqu'à 20h pour votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes. Tennis, cette Coupe Davis, on en a beaucoup critiqué. Elle a beaucoup été critiquée au moment du changement de formule. Ça y est, c'est fait, c'est passé pour l'équipe de France. En tout cas, que faut-il en retenir? Les explications d'Anthony Reich. 3 semaines de trêve et un retour en fanfare. Le top 14 a repris ce week-end avec des dénouements de folie et désormais une certitude. Ils seront nombreux cette année à jouer le maintien.
C'est terminé, victoire de Perpignan à la sirène, 26-24.
Bastien Souris, le talonneur titulaire cet après-midi, qui s'échappe et qui aplatit dans l'embute, et Garis qui repasse devant.
Et une dernière pénalité en faveur des Montpellierains qui vont donc s'imposer sur la sirène, sur cet essai signé Yann Serfontaine, 25-24. Facundo Issa qui s'est fait un plaisir de sprinter pour ensuite taper en touche et libérer le Stade Mayol, 19-13.
Extrait du multiplex rugby que vous avez pu voir dans le direct sur RMC hier, le multiplex de 15h avec des matchs de folie à chaque fois. Bonsoir Arnaud Souk.
Bonsoir.
Journaliste RMC Sport, un classement serré en bas, on le disait. 6 équipes au moins concernées par le maintien.
Oui, puisque de Pau, quand on regarde le classement, Pau 9e à Biarritz 14e et dernier de ce top 14, il y a seulement 4 points d'écart avec 6 équipes dans cet intervalle. Pau, Brive, Toulon, Paris, Perpignan et Biarritz, une densité assez exceptionnelle donc en bas de classement et les cartes rebattues, hein, on peut le dire, après chacune des 11 journées disputées jusqu'alors. Et c'est même une nouveauté cette saison, puisque d'ordinaire on avait tout au plus 4 équipes à la lutte en fond de classement, et sur ces 4 équipes traditionnellement, une comme A l'an passé était complètement largué. Mmh. Bref, c'est la peur tout au fond de la classe, et ce n'est pas galvaudé de le dire, surtout que parmi ces 6 équipes, on compte quand même 2 cadors présumés de ce top 14, en l'occurrence Toulon et le Stade Français. Paris, qui a perdu hier sur la pelouse de Biarritz, pendant que l'autre promu, Perpignan, on en reparlera, a remporté sa 4e victoire de la saison à domicile face à Clermont. Bref, l'un des grands enseignements de cette journée, c'est que cette saison, il n'y a plus ou presque plus de petites équipes en top 14, de quoi mettre les nerfs en pelote au plus fin des pronostiqueurs, hein, qui ne savent plus où donner de la tête, Thibaut.
Oui, bah, demande ça à Denis Charvet,
par exemple.
Il y a une explication rationnelle à cette telle différence cette année, ce nombre d'équipes concernées par ce bas de tableau.
Rationnel, très bon top 14.
Rationnel, je ne sais pas. Alors, en tout cas, oui, on a un très bon top 14. Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, ce n'est pas un nivellement par le bas. Les tout petits sont de plus en plus forts. C'est ça la réalité aujourd'hui du terrain quand on regarde les matchs. En termes d'effectifs, par exemple, Saïli, Armitage, Dyer, Ekon, Kouridrani, à Biarritz. On a Melvin Jaminet, Mahafou, Chouli, Pato Fernandez, Tisley à l'USAP. Les petits n'ont vraiment pas à rougir, hein, par rapport à justement leurs effectifs. Ils peuvent aussi compter sur les bénéfices de saisons passées, à durement ferrailler au niveau inférieur de la Pro D2, un championnat extrêmement dense et avec des joueurs plus aguerris que jamais aux rues de bataille. Et c'est précisément le fait peut-être de ne jamais rien lâcher qui a permis à l'USAP de s'en sortir hier avec un essai inscrit. On l'a entendu sous le micro de Morgan Maury en toute fin de match au terme d'une énorme séquence. Écoutez, Patrick Arletaz, le manager de l'USAP.
C'est important pour nous de gagner. Ça n'assure de rien pour la fin de saison. Ça n'assure de rien pour notre objectif qui va être très compliqué jusqu'à la fin, etc. Bien sûr. En tout cas, ça nous rend légitime. On n'est jamais favori, mais on n'a pas perdu d'avance. Donc, c'est deux choses qui sont intéressantes. Jamais favori, on le savait avant de démarrer la saison. La nouveauté ce soir, c'est qu'on n'a jamais perdu avant de jouer le match. Et ça, c'est très important pour nous.
Marie, je t'entendais dire on a un bon top 14, mais ça fait des années qu'on a un bon top 14. Pourquoi cette année particulièrement, selon toi?
Parce que ça se densifie, c'est pas que cette année, on le voit arriver depuis un petit moment. Je trouve que le travail qui a été fait, notamment pour que les joueurs de la formation française trouvent des postes, qu'on aille moins chercher à l'étranger sur certains postes et qu'on fasse jouer tout le monde, a rendu les GIF et on a rendu le top 14 encore plus agressif, encore meilleur. Je pense aussi que, tu sais, quand t'as la vitrine qui marche bien, derrière, généralement, la pyramide, il y a toujours une raison, hein. Quand en haut c'est bon, c'est qu'en base, en bas, la base s'élargit de bons joueurs. Et oui, je pense que notre top 14 est encore meilleur et qu'il est en train de se densifier et que donc c'est jamais gagné. C'est pas, t'as plus une équipe qui est totalement seule devant, c'est pas gagné. Et chaque semaine, ça c'est remis complètement à zéro les compteurs, et on voit des fois des très grosses équipes qui vont
à l'image de Toulouse hier, qui voilà, a eu beaucoup de mal face à Brive, par
exactement,
exemple.
Exactement.
On continue à parler rugby dans un instant dans le RMC Sport Show, toujours avec Arnaud Souk et Marie Zévange-Zépé, mais le foot et cette énorme affiche en Première Ligue qui se termine entre Chelsea et Manchester United, Anthony Reich.
98e minute de jeu, et c'est terminé à l'instant justement, un partout, c'est la mauvaise opération pour le leader Chelsea, qui perd un petit peu d'avance en tête du championnat, mais qui conserve quand même un point d'avance sur Manchester City et les Red Devils, Manchester United qui continue de relever la tête et qui viennent chercher un point précieux sur la pelouse du leader. Un but partout donc entre Chelsea et Manchester United.
Et la bonne première du nouveau coach de United, Ralf Rangnick. Merci beaucoup Anthony.
Il n'est pas encore arrivé Thibaut.
Oui, qui arrive très vite. À tout à l'heure Anthony, 19h23, le rugby. On retient évidemment ce bas de tableau où la lutte va être passionnante en bas comme en haut. La grave blessure de Mathieu Bastaro, c'est malheureusement l'autre fait, et même certainement le fait principal de ce week-end, Arnaud, lors de la défaite défaite lyonnaise à Toulon.
Oui, un pouce levé vers le public, les larmes aux yeux, allongé sur la civière en train de l'évacuer du terrain après seulement quelques minutes sous les applaudissements de Mayol, son ancienne maison. On a compris à ce moment-là la gravité de la blessure dont souffrait le centre lyonnais aux 54 sélections en équipe de France, blessé donc gravement aux deux genoux en tout début de match, pris en charge par la suite par les médecins dans le vestiaire, puis évacué par les pompiers, là aussi sur un brancard en début de seconde période. Les premiers examens pratiqués dans un centre hospitalier de Toulon ont confirmé les craintes. Le premier diagnostic effectué à chaud évoque une récidive sur le genou gauche qui avait été opéré l'an dernier, et au moins une grosse entorse à droite, voire une possible rupture du tendon quadricipital. D'autres examens doivent être pratiqués demain. En attendant, je vous propose d'écouter Pierre Mignoni, le manager du Loup, qui n'a pas juste perdu un match hier à Mayol, il a vraiment perdu un joueur, il en était vraiment très très triste. Pierre Mignoni.
Je crois que c'est plus triste d'avoir perdu Mathieu que d'avoir perdu le match. Je vais être honnête avec vous. Mais avoir perdu Mathieu dans ces conditions, franchement, ça me peine beaucoup, ça nous peine beaucoup. Les deux genoux ont été touchés. Je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a, mais avec tous les efforts qu'il a fait pour venir et tout, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Beaucoup de peine pour lui. Donc on va l'aider, on va le soutenir. Ça sent pas très bon. Il glisse. Genou en porte-à-faux et l'autre également. Donc c'est très rare. Je crois qu'il y a Ronaldo qui a fait ça. Après, c'est très rare. Je remercie le public toulonnais qui lui a fait une belle sortie, mais qu'est-ce que c'est triste.
Voilà, on a entendu Pierre Mignoni dire ça sent pas bon. On peut se poser des questions. Il a 33 ans, Mathieu Bastaro, rechute sur le genou. Si jamais c'est confirmé, il doit encore y avoir des examens qui doivent être pratiqués. Mais ça pourrait aussi, et certains en parlent, alors ça ne reste que du domaine de l'observation et de l'avis extérieur, mais certains évoquent déjà une possible fin de carrière pour Mathieu Bastaro.
Maryse, on en parlait hors antenne avant le début de cette émission. Je sais que ça te touche. Et c'est vrai qu'en plus, Mathieu Bastaro, c'est aussi ce qui a toujours fait sa qualité. C'est un physique particulier.
Ouais.
C'est ce qui faisait sa qualité quand il a explosé au plus haut niveau.
Alors c'est toujours la difficulté.
Et quand on voit cette blessure, on se dit que le physique qui est le sien, ça paraît compliqué effectivement de revenir après une telle blessure.
Non, c'est pas le physique qui est le sien qui paraît compliqué. C'est surtout les récidives de rupture et de blessure et l'âge qui font qu'au bout d'un moment, tu peux pas revenir. Parce que une rééducation sur un genou, ça prend presque un an. Et si c'est fait vraiment le tendon quadricipital, c'est grave. C'est une blessure qui est grave. Et tu imagines bien que rester un an à essayer de récupérer tes moyens, quand en plus ta force c'est justement d'avoir des moyens physiques exceptionnels. Voilà, tu reviens à 36 ans, c'est presque pas envisageable, même si j'aime pas dire ça parce que je suis pas dans la peau de Mathieu Bastaro et que c'est un champion et qu'il aura envie peut-être de se battre encore une fois. Mais c'est vrai que quand on regarde sa carrière, c'est un garçon qui avait une rapidité hors norme, qui faisait 30 kilos de moins quand il a débuté, qui était déjà assez solide. Alors c'est un peu le défaut, enfin moi c'est mon avis, hein, c'est mon seul avis, mais le défaut du rugby de vouloir faire prendre absolument de la masse pour protéger des blessures, mais quelquefois on fait prendre de la masse à des gens auxquels on fait perdre leur qualité première, et lui il est quand même rapide, et quand tu es rapide mais avec 140 kilos, finalement tu as beaucoup plus de risques d'avoir des blessures graves que d'autres, et puis quand on regarde son squelette, il n'a peut-être pas un squelette qui est fait pour porter ce poids-là. Bon, il se trouve qu'il s'est développé comme ça, qu'il a été ce gars extrêmement percutant, qui a été en plus rude au combat, qui a pris peut-être plus de coups que d'autres, mais oui, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur parce que ce garçon est méritant et a toujours eu des montagnes russes incroyables dans son parcours.
Arnaud.
Non, juste pour rebondir sur ce que disait Maryse par rapport à son âge et à la difficulté de revenir, on l'a vu l'an passé, alors c'était prévu que Johan Hugé arrête, mais il s'était fait une rupture du tendon d'Achille, ça a signifié la fin de sa carrière. Il avait seulement 33 ans, enfin il a seulement 33 ans Johan Hugé. Il y a aussi une notion, c'est que dans le rugby, de plus en plus de chocs obligent aussi les rugbymen et les sportifs à
un moment
arrêter
donné, il faut faire des choix, bien
un
sûr.
Un petit peu plus tôt,
bien
donc
sûr.
Oui, ça sera difficile.
Parce qu'un tendon d'Achille, c'est pareil, maintenant on le répare très bien, parce qu'il n'y a pas commune mesure entre l'opération du tendon d'Achille il y a 25 ans à mon époque et les opérations qu'on fait maintenant ou quasiment le lendemain de l'opération t'es déjà en rééducation. C'est des trucs de dingue ce qu'ils font, ils te mettent du titane, on a tendance à te dire qu'une fois que le tendon a pété il répète plus, sauf si la fois d'après il arrache l'os, et je suis tout à fait sérieuse quand je dis ça parce que j'ai certains amis auxquels c'est arrivé. Mais ce qui est certain, c'est que on ne s'imagine pas, on ne peut pas imaginer la somme de travail qu'il faut faire pour revenir. En fait, on a tendance à dire dans tous les sports, que la rééducation qualification après une blessure est plus dure que l'entraînement lui-même. Donc, arriver à rester focus pendant des mois et des mois avec des entraînements 2, 3 heures, 4 heures par jour de rééducation en ne pensant qu'au retour pour finalement quelques semaines après se répéter, bah, tu vois, j'en ai des frissons. J'ai du mal à l'imaginer, en fait.
On devrait avoir plus de nouvelles, plus détaillées concernant Mathieu Bastaro demain. Vous les aurez sur RMC, bien sûr, sur rmcsport.fr pour conclure cette page rugby, cette 11e journée de top 14. Le dernier match, c'est ce soir, hein, 21h05 sur RMC. Le Racing 92 recevra l'Union Bordeaux-Bègles. Merci Arnaud Souk,
bonne soirée
à toi.
Bonne soirée.
19h29, le RMC Sport Show continue. On est en direct comme tous les dimanches jusqu'à 20h avec Marie-Zévan GP à suivre la Coupe Davis. Est-ce que c'était si nul que ça, la Coupe Davis? On en parle dans un instant. Et puis le foot, la Ligue 1, les compos, l'ambiance. Marseille 3, c'est le dernier match de la 15e journée ce soir sur RMC à 20h45. On fera un coucou à Timothée Mémon en direct du Vélodrome dans un instant. Vous bougez rien.
RMC Sport Show.
Thibaut Jean-Grande. Avec Marie-Zévan GP, en direct jusqu'à 20h, comme tous les dimanches soirs. Merci d'être fidèle au rendez-vous, au rendez-vous sport du dimanche soir à la radio dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes. Notre invitée ce soir, une championne du monde, championne d'Europe, championne olympique, qui va aller chercher un nouveau titre de championne du monde. C'est Béatrice Edwige, la joueuse de l'équipe de France de handball. On parle également Coupe Davis dans un instant. C'est déjà terminé pour la France. C'était comment cette Coupe Davis New Look? Les explications d'Anthony Reich. Mais d'abord le football. Notre minute foot, parce que dans 1h10, c'est le dernier match de la 15e journée de Ligue 1 sur RMC.
RMC Sport Show.
La minute foot.
L'OM va recevoir 3 et Timothée Mémon est déjà sur place. Salut Timothée.
Salut Thibaut, salut à tous.
Il n'y aura pas grand monde autour de toi. Ça va sonner creux ce soir au Vélodrome.
Et non, ça va sonner creux malheureusement. Une situation qui ne sera pas sans nous rappeler de longs mois, de très longs mois où c'était très désagréable et d'autant plus désagréable dans un stade, dans un écrin, dans une ambiance comme celle du Vélodrome, de voir un match à huis clos. À huis clos, pourquoi? Parce que le club a été sanctionné suite à au jet de projectiles qui avait eu lieu lors du classique face au Paris Saint-Germain. La décision avait été prise. C'est donc ce match qui a été sanctionné. Il n'y aura donc pas de public. Alors évidemment, ce sera au désavantage des Marseillais qui sont habitués à être poussés par leur 12e homme. Mais les Troyens sont dans un sentiment paradoxal. Je discutais il y a quelques instants par texto avec un joueur de l'effectif troyen qui me disait: on est dégoûté qu'il n'y ait pas de public parce que clairement ils avaient envie de connaître, de vivre cette ambiance. Et à la fois, on sait que ça pourra peut-être jouer à notre avantage. Voilà, donc c'est un sentiment paradoxal côté Troyen, évidemment un désavantage pour les Marseillais.
Merci beaucoup Timothée, on te retrouve dans une dizaine de minutes, il faut quand les compos tombent, hein, tu nous appelles et les compos officiels. À tout à l'heure, le coup d'envoi, c'est 20h45. Tennis dans le RMC Sport Show. La Coupe Davis, on en a beaucoup parlé quand la formule historique a été remplacée en 2020. Et on n'a pas eu cette fois. On y est, enfin on y était, parce que c'est déjà fini pour la France.
Entre nous c'est cassé, nous deux c'est du passé, j'en ai vu assez.
Eh oui, malheureusement. Affaire classée pour l'équipe de France, déjà fini pour cette
Coupe. Je valide la bande son.
Hein. Ah, merci Maryse, voyons. Kinvé, longue histoire. Sébastien Grosjean, capitaine de cette équipe de France de Coupe Davis. La France était à Innsbruck pour disputer ses deux matchs de poule. Anthony Reich a suivi ça pour RMC Sport. Salut Anthony.
Salut Thibaut. Bonsoir Maryse, bonsoir à tous.
Déjà, d'un point de vue factuel, l'élimination est officielle. Il y avait un maigre espoir, mais là, depuis 5 minutes, ça y est, la France est éliminée de cette Coupe Davis. Hein.
Ouais, les Bleus savaient qu'il y avait un infime espoir de pouvoir voir les quarts de finale et Madrid en étant parmi les deux meilleurs deuxièmes des six poules au set average, mais la victoire de l'Allemand Jan Lennart Struff là à l'instant, il y a quelques minutes, 2-7-0 justement a condamné les Bleus.
On appelle ça, j'allais dire, qu'est-ce que c'est le set average?
Et oui, le set average, c'est comme le goal average mais c'est 7, voilà. Et le problème c'est que les Bleus, les joueurs de l'équipe de France n'ont pas gagné assez par rapport aux autres nations quand ils ont notamment perdu des rencontres, et ce qui a fait que ils sont désormais éliminés.
On a le point average aussi parfois. C'est un peu les 2-3 averages qu'on a. On va rappeler le format de cette Coupe Davis Gérard Piqué parce qu'on t'entend parler de cet average de poule. Rappelle-nous comment ça se passait, comment ça se passe, parce que c'est fini pour la France mais c'est pas fini pour les autres nations.
Et désormais en fait depuis 2019 et la réforme, il y a une phase finale, une sorte de mini Coupe du monde à la fin de la saison qui regroupe les meilleures nations de la saison sur à la base un même lieu pour la finale, mais cette fois-ci en 2021, trois villes hôtes ont hébergé les phases de groupe. Donc il y avait six groupes composé de trois équipes. La meilleure, évidemment, était automatiquement qualifiée pour les quarts de finale et les deux meilleures deuxièmes aussi étaient repêchées pour ces quarts de finale qui se dispatchent encore sur les villes. Et à partir des demi-finales, on est sur Madrid, la ville de la finale.
Ouais, c'était...
C'est compliqué. Hein.
Ouais, c'était déjà... C'est vrai qu'avant, c'était plus simple. Bon, on va laisser une chance.
Bah, avant, on avait le fameux principe du home and away, donc de ces matchs à domicile et à l'extérieur. La nation qui recevait, parce qu'elle recevait la nation qui, son adversaire qui était déjà à l'extérieur la fois d'avant. Et on allait comme ça de match en match, quart, demi-finale, de façon logique en fait. Et là, cette fois-ci, c'est plus une sorte de Coupe du Monde de tennis.
Bon, on se rend bien compte voilà, du résultat. La France qui a gagné un de ses deux matchs de poule, mais qui est éliminée de la phase de poule, qui ne sera pas en quart de finale. Oui. Soyons clairs, c'est pas une surprise d'être éliminée d'entrée. Hein.
Non, c'est pas une surprise parce que l'équipe de France est arrivée à Innsbruck en Autriche, privée de certains de ses meilleurs éléments. Les trois meilleurs Français au classement ATP que sont Gaël Monfils, Hugo Humbert et notamment aussi Benoît Paire. Pour diverses raisons, soit blessures, soit tout simplement pas l'envie d'aller jouer, ou soit vacances pour d'autres. Ouais. Et donc du coup, Sébastien Grosjean, le capitaine de cette équipe de France de Coupe Davis, avait fait le choix de faire un mélange d'expérience et de jeunesse en intégrant notamment des nouveaux joueurs, comme Arthur Hinderknecht, 58e à l'ATP, un jeune joueur français qui a un peu éclos cette saison. Et puis, il a intégré en 6e homme, mais qui n'a pas été dans le groupe final, Hugo Gaston, qui a notamment fait de belles performances à Bercy il y a quelques semaines. Et c'est ce mélange-là qu'il a cherché à faire pour déjà certainement préparer l'avenir.
Oui, il a fait ce mélange. Je crois que Nicolas Mahut en a parlé, lui, l'ancien. Il avait 39 ans, Nicolas Mahut.
40 ans. Il continue de jouer. Il joue qu'en double désormais, Nicolas Mahut. Mais il n'y a plus beaucoup de saisons, évidemment. Mais il en a parlé justement de ce mélange. Il est très satisfait parce qu'il a l'expérience, évidemment, de cette Coupe Davis, Nicolas Mahut, de l'entrée en matière de ces jeunes joueurs. On l'écoute.
Mais je les ai trouvés fantastiques, que ce soit Hugo. Alors, on l'a pas vu sur le terrain parce qu'il a terminé 6e, mais. Il a été fantastique, il a amené beaucoup d'énergie positive. Arthur, c'est la même chose, il a un passé de collège américain, donc il a cette expérience d'être dans l'équipe, mais il a à la fois apporté un super état d'esprit, mais aussi en même temps beaucoup de conviction sur le terrain, et ça fait du bien au groupe.
Oui, alors bon, c'est fini hein, pour les Bleus, ce mélange jeune et vieux. Ouais. La suite de la compétition, du coup, donc les quarts de finale qui vont arriver, quel pays est favori qui se sort du lot?
Les nations qui sortent du lot, ce sont l'Espagne, notamment la Russie, qui est très dense avec Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, Andrei Rublev aussi, membre du top 10. Et puis il y a l'Italie aussi, qui est une belle nation avec de très bons joueurs, Fonini, et puis les jeunes joueurs italiens. Donc on va falloir surveiller ces trois nations-là. Et puis, quand même, n'oublions pas la Serbie de Novak Djokovic, même si ils ont perdu la rencontre hier soir. Novak Djokovic, quand il est là, c'est forcément difficile à battre.
Il est 19h39, le RMC Sport Show continue. Nous sommes sur la Coupe Davis avec Marie-Zéven Gépé, Anthony Reich, ce nouveau format donc, où les Bleus viennent tout juste d'être éliminés en phase de poule. Nouvelle formule beaucoup critiquée, je le disais tout à l'heure, au moment de l'annonce du changement en 2019. Là, on y était en tout cas.
Seul média français d'ailleurs sur place.
Ouais, avec Eric Salio. On peut tirer un premier bilan. Au final, est-ce que cette nouvelle Coupe Davis, c'est si nul que ça? C'est si nul que ce que tout le monde annonçait il y a 2 ans. Maryse et Anthony, je pose la question à tous les deux.
J'ai même pas réussi à suivre exactement tout ce qu'il disait depuis tout à l'heure. J'ai du mal
déjà
à.
Trop
non,
quoi,
non, ouais, je comprends rien. Et je n'y comprends strictement rien. Et puis ça se passe loin de chez nous. Et puis ça n'arrivera jamais chez nous. Et en fait, j'arrive pas à voir l'intérêt. Et je veux dire, même Djokovic l'a dit cette semaine. Il a dit, cette nouvelle formule n'a aucun intérêt. Et il l'a dit aussi clairement que ça. Donc, je pense que si l'un des plus grands joueurs du monde exprime son désaveu, enfin, pour cette formule-là, c'est pas non plus, on n'a pas l'habitude de se tirer une balle dans le pied, de faire de la contre-pub au sport qu'on aime. Donc, à un moment donné, je pense que les joueurs ne sont pas contents. Et le public, franchement, se passionne. Alors, si tu aimes le tennis, de toute façon, tu vas regarder les matchs parce qu'il y a quand même de jolies affiches, il y a quand même des noms. Puis, ça permet de découvrir des jeunes joueurs comme celui dont je n'arrive pas.
Arthur Hinderknecht.
Hinderknecht. C'est pas facile, ça. C'est pas facile, celui-là.
La galère quand il va gagner Roland Garros.
Tu m'étonnes. Donc, ça permet effectivement de sortir des nouveaux visages et de voilà. Bon, pour quelqu'un qui se passionne pour le tennis, bien sûr, va le regarder, mais je ne suis pas persuadée qu'il le regarde en se passionnant. Il va le regarder parce qu'il aime le tennis, c'est tout.
Anthony.
Oui, non, je suis d'accord. Et puis c'est symptomatique ce que vient de dire Marie, c'est que plus personne ne s'intéresse à cette Coupe Davis. Malheureusement, les joueurs en ont assez de ce format déjà, alors qu'ils ne l'ont joué que deux fois. Et on voyait toute la tristesse des joueurs français cette semaine, que ça soit Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert, qui entrent dans un stade vide. Alors c'était à huis clos à Innsbruck à cause des mesures sanitaires, puisqu'il le pays est confiné. Mais il n'empêche que Nicolas Mahut nous l'a dit, ça n'a rien changé à ce qu'ils ont vécu en 2019 lors de la première version moderne de cette Coupe Davis, où il y avait 200 spectateurs, 300 spectateurs dans les tribunes, alors que la France est habituée à jouer devant des salles pleines. Oui. Les dernières années à Lille, notamment au stade Pierre-Mauroy, où ils jouaient devant 27 000 personnes.
C'était même ça qui était d'ailleurs le succès de cette Coupe Davis, qui en soi est une compétition de niveau inférieur à ce que tu peux trouver en Grand Chelem, mais où le fait que ça soit une compétition par équipe, alors que le tennis est un sport extrêmement individuel, fait que les pays se passionnent comme ils se passionneraient pour un match de foot quand c'est chez eux, et exclusivement quand c'est chez eux.
Exactement.
Tu vas pas te passionner pour un match d'équipe de tennis quand il se passe à 10 000 km de chez toi.
Il y avait les supporters français qui se déplaçaient et qui allaient faire du bruit parfois à l'extérieur.
Oui, alors ça, il y a toujours eu l'association officielle des supporters.
Là, quand tu vas avoir une finale à Dubaï ou je sais pas où, t'auras pas beaucoup de supporters qui vont se déplacer. T'auras peut-être des gens
locaux. Et là, on le voit depuis deux ans, c'est que les seuls endroits où il y a du monde, c'est là où il y a la nation haute qui accueille, donc c'est-à-dire l'Espagne pour Madrid, ouais, et puis à Turin, l'Italie, où il y a du monde pour ces matchs-là.
Et d'ailleurs, on pourrait déjà changer cette formule-là.
Il y a des rumeurs. Il y a un projet apparemment en cours, tout qui commence un petit peu à sortir des tuyaux. On voudrait, les instances internationales voudraient modifier la phase finale. Ils voudraient garder ce côté de home and away, donc au domicile extérieur pour les premiers matchs de l'année, les qualifications, on va dire.
Tu peux répéter home and away, c'est quoi?
Home and away. C'est le fameux terme qu'on emploie en tennis pour les matchs.
Prononcé avec un accent du Kentucky, en tant que j'ai grandi là-bas.
Et bilingue. Et ensuite, la phase finale pourrait être remodelée. Novak Djokovic, le numéro mondial, a émis l'idée, par exemple, d'avoir 6 villes hôtes sur cette phase finale, donc ça pourrait être remodelé, peut-être avec une autre phase qualificative en septembre, à la période à laquelle à l'époque c'était les demi-finales.
Tu vas voir qu'ils vont revenir finalement à le modèle de la Coupe Davis.
C'est pas mal.
Et puis surtout dans les tuyaux, il y a cette fameuse rumeur d'un énorme contrat que la Fédération internationale pourrait signer pour la prochaine ville haute, donc là Madrid c'est la dernière année pour la finale, et qui serait Abu Dhabi.
D'accord.
Avec évidemment peut-être aussi une énorme manne financière à la clé.
Bon, en tout cas, cette saison de tennis va se terminer avec cette Coupe Davis. Pour les Français, c'est terminé. Les autres nations en cours, c'est dimanche prochain, dans une semaine, la finale de cette Coupe Davis.
Tout à fait.
Ensuite, ce sera un peu de vacances. Et puis l'Open d'Australie, mi-janvier, premier grand chelem de la saison 2022. Et le suspense, c'est de savoir déjà qui pourra y aller ou pas. Ça a encore bougé sur les histoires de vaccination.
Il y a quelques heures, Craig Taylor, qui est le patron de l'Open d'Australie, a indiqué que 85% des joueurs étaient vaccinés, qu'il espérait tout début janvier avoir 95% de joueurs vaccinés. La règle à l'heure actuelle officielle, c'est que les joueurs non vaccinés ne pourront pas participer à l'Open d'Australie. Mais les autorités sanitaires de l'État de Victoria, donc c'est l'État qui accueille justement à Melbourne le tournoi, ont précisé hier un petit aménagement des règles. Alors, ils n'ont pas précisé si ça valait pour l'Open Australie, mais quoi qu'il en soit, ça serait quarantaine de 14 jours pour les personnes non vaccinées entrant sur le territoire à partir d'aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que de facto, un joueur comme Novak Djokovic, qui pour l'instant a laissé planer le doute sur sa vaccination et on présume qu'il n'est pas vacciné, pourrait, dans cette optique-là, si l'Open Australie valide aussi cette règle, participer au tournoi. En tout cas, il y a quelques heures, son papa a un peu mis un coup de pression, on va le dire, clairement, aux autorités australiennes et aussi à l'organisation du tournoi, puisqu'il a dit que ça serait fortement improbable, en l'état actuel des règles, que son fils aille faire le tournoi australien à cause un peu, on va dire, de pression qu'il y aurait autour de lui pour qu'il se vaccine notamment.
Les parents dans le monde du sport, on dirait, tu sais, au collège, non, mon fils ne fera pas la sortie. Merci en tout cas, Anthony, pour toutes ces explications. Le RMC Sport Show continue jusqu'à 20h avec Maryse et l'invité du soir, notre championne du monde, championne olympique, championne d'Europe, la joueuse de l'équipe de France de handball, Béatrice Edwige. Les mondiaux de hand dans une semaine, ça sera commencé déjà. Les Françaises iront à quelles ambitions après leur titre olympique? On lui pose la question dans un instant.
RMC Sport Show.
Thibaut
Giangrande. Avec Marie Zévan, GP jusqu'à 20h. Ensuite, l'after arrive pour ce Marseille 3, dernier match de la 15e journée de Ligue 1. Marie, t'as ton calendrier toi aussi ou pas alors?
Je sais pas encore. Je ne sais pas. Je vais le savoir peut-être dans les jours qui viennent.
Bah, faut dire, parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on fasse un choix.
Mais ce qui est sûr, c'est que moi aussi, ça sera avec des choses
cachées. Ah, aussi, on va
avec des choses cachées.
Ça me déçoit un peu de Vincent, mais bon, c'est comme ça.
Écoute, il nous en montre assez toute l'année.
Dans un instant, l'invité du RMC Sport Show, Béatrice Edwige, elle sort tout juste de la victoire française contre la Hongrie en match de préparation. Les Bleus, l'équipe de France féminine de handball, va s'envoler pour l'Espagne pour y disputer le mondial moins de 4 mois après les Jeux Olympiques. Avec quelles ambitions? On posera la question à Béatrice Edwige juste après notre Minute Foot.
RMC Sport Show,
la Minute Foot.
C'est dans une heure, Marseille 3, le dernier match de la 15e journée de Ligue 1 dans un stade Vélodrome ville vide à huis clos. Timothée Mémon et Florent Germain seront sur place. Et vous avez les compos, messieurs? Timothée, tu es là?
Affirmatif.
Absolument, salut, nous avons les compositions. Thibaut, on va commencer avec celle de l'Olympique de Marseille.
Salut les amis, salut à tous. La compo de l'OM, il y a quelques petites surprises et surtout un enseignement de la bouderie Camara-OM. Camara est sur le banc. C'est assez rare pour être signalé. Paul Lopez dans le but marseillais. Saliba, Alvaro qui fait son retour et Loan Pérez en défense. Milieu Rongier, Pape Gueye et Guendouzi. Lirola plutôt offensif sur le côté droit. Conrad De La Fuente côté gauche. Payet capitaine en numéro 10 en soutien d'Arkadiusz Milik.
Et du côté de l'Estac, il y a quelques changements également opérés par Laurent Batless avec Gauthier Gallon dans la cage. Une défense à 3 avec Giraudon, Salmier, Ramis et du classique. Sur le côté droit, Youssouf Koné retrouve une position de titulaire avec sur le côté gauche Biancon. Au milieu de terrain, on va retrouver Kwame associé à Tardieu. Et puis devant, Gerson Rodriguez avec Mama Baldé et Johan Tousgar. Merci Florent, merci Timothée, en direct du Vélodrome. On vous retrouve dans une dizaine de minutes pour analyser ces compos dans l'after autour de Gilbert Bribois. L'after, donc le match autour de ce Marseille 3. À tout à l'heure messieurs, 19h50 d'ici là, le RMC Sport Show continue en direct comme tous les dimanches jusqu'à 20h avec Marie Zévan GP. Dans quelques minutes, on sera avec Béatrice Edwige, normalement joueuse de l'équipe de France de handball. Je vous rappelle le contexte, les Françaises championnes olympiques cet été à Tokyo, elles ont déjà été championnes du monde. Elles ont été également championnes d'Europe. Elles ont tout gagné et elles s'envoleront pour l'Espagne mardi pour débuter cette compétition vendredi face à l'Angola et donc aller chercher ce titre de championne du monde.
L'invité du RMC Sport Show.
Bonsoir Béatrice Edwige.
Bonsoir.
Merci
Bonsoir.
Beaucoup d'être en direct sur RMC. Alors tu sors tout juste du dernier match de préparation là, avant de partir pour le mondial, ce France-Hongrie.
Attendez, je fais un truc rapidement.
C'est le direct.
Je vous entends. Parfait.
Tu nous entends bien? Oui. Ouais. Là, tu sors tout juste du match. Tu sors
exactement.
À peine de la douche, peut-être?
Je sors juste des vestiaires. Là.
D'accord.
Exactement.
Bon, merci de prendre le temps de 3-4 minutes de nous répondre
merci.
Sur RMC.
Merci
c'est,
à vous.
C'est très gentil. Ça s'est bien passé. Victoire, deuxième victoire contre la Hongrie. Un peu plus accrochée que la première. 29-28 aujourd'hui.
Ah oui, beaucoup plus accrochée. Ça a été un match assez difficile. Mais c'était un peu prévisible parce que on était sur un deuxième match. Les Hongroises allaient forcément vouloir montrer autre chose. Donc ça a été un bon match, c'était un très bon match test.
On l'a suivi sur RMC avec Nicolas Paolo Orsi. On a entendu aussi l'ambiance qu'il y avait à Coubertin. Ça fait du bien de faire le plein d'amour de public avant de s'envoler pour l'Espagne.
Ah, c'était génial. Puis ça fait plaisir de jouer à Paris. Avec du monde, après le titre olympique, franchement, on a passé deux superbes jours et on était très contentes. Le public parisien a répondu présent. Et ça, c'était super important pour nous.
Dans les Évangiles.
On a vu une première mi-temps et puis même d'une façon générale, pratiquement jusqu'à la fin, un jeu qui avait du mal à se mettre en place. Même ouais. Olivier Krumbholz qui piquait des colères. On n'a pas trop l'habitude de le voir dans cet état.
Ouais,
est-ce
clair.
Que vous avez douté ou non, c'est resté serein jusqu'à la fin?
On peut pas dire qu'on a vraiment douté parce que je pense que dès la 20e minute de la première mi-temps, on était déjà capable un peu de faire l'analyse de ce qui ne marchait pas. Déjà entre nous, Olivier nous l'a redit à la mi-temps, mais au bout du compte, c'est des scénarios pour nous les Françaises qui sont assez habituels. On n'a jamais des matchs qui suivent tout droit.
Vous êtes diesel quoi, faut monter en pression, faut qu'on vous énerve.
Ouais, voilà. On est obligé de monter un peu en pression, on a l'habitude un peu de ces scénarios un peu un peu qui montent, qui descendent, etc. Donc on savait qu'on allait revenir, mais on savait pas à quel moment.
Sans panique, voilà. Sans panique. Béatrice Esvigé est l'invitée du RMC Sport Show ce soir, joueuse de l'équipe de France de handball. Le championnat du monde de handball débute vendredi prochain pour les Bleus en Espagne. On va parler motivation, Béatrice Esvigé.
Ouais.
Le titre olympique, c'était il y a même pas 4 mois. Comment on fait pour se motiver pour ce championnat du monde qui arrive très vite finalement?
C'est compliqué, mais en fait, dans le handball, souvent, j'ai utilisé un peu cette métaphore. En ce moment, on parle un peu de fast fashion, de fast tout. Et bien, nous, dans le handball, on est un peu en mode fast compétition, en fait. C'est-à-dire que dans le handball, on joue tous les ans, et sur une année olympique, et surtout sur cette année 2021, avec le report des Jeux et le Covid, on est sur 3 compétitions en un an.
Mais oui.
Entre guillemets, même si là, on a eu les championnats d'Europe qui étaient en 2020, mais c'était en décembre 2020. Donc du coup, on a fait les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques et les championnats du monde. Donc au bout du compte, on est un tout petit peu habitué à ça. Et ce qui est bien, c'est que en soi, on n'a pas non plus trop le temps de réfléchir et on n'a pas trop le temps de dormir sur la médaille, nous, parce que là, on a les championnats du monde qui arrivent et je pense qu'on est hyper motivé parce que on est déjà physiquement, on est prête. On est vraiment toutes prêtes. Le groupe est plutôt en bonne forme physique. On aimerait bien aller chercher, on aimerait vraiment aller chercher quelque chose sur ces championnats du monde. Je sais pas jusqu'où on va aller, mais on va prendre ces championnats du monde vraiment étape par étape. C'est-à-dire qu'on va essayer déjà de passer ce premier tour qui va être très compliqué pour nous parce qu'on a une poule très difficile. Et après, on verra.
Angola vendredi, Slovénie samedi, il y aura aussi le Monténégro, effectivement, partie de tableau difficile. Une dernière question, il y a pas mal de changements dans cette équipe de France, il y a beaucoup de cadres qui ont pris leur retraite, Siraba Dembélé, Amandine Leno, Alexandra Lacrabère, Camille Aiglon. On est un tournant là dans l'histoire de cette équipe de France.
Oui. Ouais. Oui, clairement. C'est une page qui se tourne avec des cadres, ça a été des grandes dames du handball français et elles le resteront, elles le sont encore. Et elles nous laissent en héritage un grand palmarès et une grande équipe de France et ça va être à nous. On a encore Alison qui fait partie de cette génération qui est encore avec nous.
C'est la dernière. Vous avez pas réussi à la virer encore, la dernière?
Non, elle est bien là, elle est bien encore avec nous, donc elle reste encore avec nous et on l'espère encore pour longtemps. Mais en tout cas, on va tout faire vraiment pour faire perdurer et pour continuer à pousser cette équipe de France le plus loin possible et continuer à gagner des titres et à surtout montrer une très belle image au sport français.
Et on vous suit, on compte sur vous sur RMC. Merci beaucoup Béatrice Edwige de nous avoir répondu à la sortie de la douche ce soir après la victoire contre la Hongrie. Bonne soirée.
Merci.
Bon vol pour l'Espagne et à très vite.
Au revoir.
Maryse, passe une bonne soirée. On se retrouve dimanche prochain.
Ah oui, c'est fini.
Bah oui, 19h56. L'after arrive autour de Gilles Brière-Bribois. Autour du match Marseille 3, le dernier de la 15e journée de Ligue 1. L'analyse des compos qu'on vous a donné il y a quelques instants. Passez une bonne soirée sur RMC. Ciao.
RMC, l'after foot. Le match.